bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est le bouche à oreille qui est de retour sous vos ondes. Et aujourd'hui, le bouche à oreille reçoit l'association le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et c'est Louise Guittet que nous recevons dans notre studio. Bonjour Louise.
Bonjour.
Alors Louise, vous êtes juriste pour l'association.
Oui.
Donc on va faire connaissance avec vous juste après. Mais avant, je vais présenter mes camarades qui m'accompagnent pour faire l'émission. Donc Hervé, bonjour Hervé.
Bonsoir tout le monde.
Et Louis,
c'est ce que je me demandais.
Voilà.
bonjour les auditeurs et les auditrices.
Voilà. Lou, tu te présentes rapidement aux auditeurs parce qu'on n'est pas habitué à te voir dans nos studios. Donc, petite présentation, s'il te plaît.
Oui, encore une fois, les premiers pas sur les différentes émissions de la radio. Je découvre peu à peu les conditions d'enregistrement du direct et ça fait un mois que je suis employé à Radio Valois-Multien et c'est chouette.
Très bien. Bon, Hervé, on ne te présente plus, bien sûr. Hein.
Malheureusement.
Hein, voilà. Et donc, je vais quand même rappeler aux auditeurs que si vous voulez intervenir pendant l'émission ou poser des questions à Louise Guittet, on transmettra pour Louise. Donc, c'est le Facebook de RVM FM, c'est le 03 44 59 30 30 ou le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Louise, donc, faisons connaissance avec vous. Qui est Louise Guittet, s'il vous plaît ? On va commencer par ça.
Faste question. Alors, du coup, je ne sais pas si je parle de mon parcours dans l'association en tant que telle ou en dehors de l'association.
Comme vous voulez.
Je suis venue pour présenter l'association. On va peut-être pas trop parler de ma vie.
On veut tout savoir.
Les deux.
Moi, j'ai un parcours de juriste classique. J'ai fait du droit. J'ai fait aussi de la sociologie politique. Et après, j'ai passé le barreau. Donc, j'ai été avocate pendant quelques années. Et du coup, depuis... Décembre 2020, j'ai intégré l'association, donc le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Oise. Je précise de l'Oise parce qu'en fait, il y en a dans chaque département de France.
Oui, c'est national.
Du coup, c'est un réseau national. Elles sont indépendantes les unes aux autres, mais du coup, c'est vraiment un système de réseau et il y a une fédération nationale à Paris, du coup. Okay. Voilà ce que je pouvais dire sur moi. Et donc je suis juriste et aussi je fais des formations, à la fois je forme les professionnels et aussi j'interviens dans les écoles, que ce soit primaire, collège et lycée, sur les questions égalité femmes-hommes et violences sexistes et sexuelles. Voilà.
Mais comment vous avez rejoint le centre de formation ? Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre le centre de formation ?
Disons que j'ai une appétence pour ces questions-là depuis toujours. Et que du coup, ayant pratiqué le contentieux juridique en tant qu'avocate, et notamment j'ai été amenée à avoir ces questions-là, moi je voulais faire plus de, je voulais travailler beaucoup plus sur les questions de genre, et rencontrer plus les personnes, faire plus de social que ce que je faisais avant, parce qu'avant j'étais vraiment dans le purement juridique quand j'étais avocate, et faire d'autres choses aussi. Ce que j'aime dans cette association-là, c'est que j'anime aussi un groupe de parole avec ma collègue psychologue pour les femmes victimes de violences. Et voilà, et je fais de l'animation, de la formation. Donc c'est un peu plus riche.
Dans le centre d'information, c'est un emploi à plein temps ?
Oui, je suis à plein temps. Oui. Je suis à temps plein.
Donc ça représente combien de personnes qui sont dans l'Oise, qui s'occupent de votre centre d'information là ?
On est 12 au sein de l'association. On est répartis sur trois territoires. Donc il y a un bureau à Beauvais, un à Margny-lès-Compiègne et un du coup à Creil. Et après on est 4 juristes. Il y a 2 conseillères en insertion professionnelle. Il y a un service civique. Il y a un responsable, alors je ne me souviens plus de son poste, mais en gros qui va faire tout ce qui est prioritairement toutes les interventions dans les écoles. Il y a une chargée de formation, de communication, une chargée d'administration et la directrice. Je crois que j'ai fait le tour. Et la psychologue, bien sûr.
Et psychologue clinicienne, c'est ça,
ouais. Psychologue clinicienne, bien sûr, qui du coup s'occupe que des femmes victimes de violences. Pour le coup, elle a vraiment ce public féminin, exclusivement, et les conseillères en insertion professionnelle aussi.
D'accord. On va saluer votre collègue qui devait venir avec vous quand même,
oui,
qui est malade, malheureusement.
Sophie Coët, je lui fais un... Ouais.
Voilà, donc on salue. Malheureusement, elle aurait pu vous accompagner pour parler plus de la com, c'est ça, hein.
Oui, et puis de façon plus transversale de l'association, quoi. Parce que moi, j'ai quand même une connaissance par mon secteur.
Eh bien, Louise, tant pis pour vous, c'est vous qui allez vous y coller, voilà. Hein, donc ça.
C'est ça.
Alors, Louise, vous faites des permanences à Crépy-en-Valois.
Exactement.
On a noté aussi, hein,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui,
hein.
C'est ça. Je fais des permanences. Donc, c'est deux fois par mois, les premiers et troisièmes jeudi du mois, de 9h à midi. Pour l'instant, c'est au premier étage de la médiathèque, Rameau, là. Et après, il me semble qu'on va intégrer le projet qu'il y a de maison. Alors, je ne me souviens plus du terme. Ce n'est pas maison ressource, maison de service. Il y a un projet, elle devrait voir le jour bientôt.
Oui, c'est, ouais. Oui, c'est une maison des services, oui, c'est ça. Ouais.
Je ne sais pas si c'est à la fin de l'année ou...
Ah, je pensais que c'était là,
au
printemps,
je crois que ça a
mais
du retard,
ça a peut-être décalé.
Travaux,
alors, ok.
Ouais.
On ira se renseigner auprès de la mairie de Crépy. Ouais. Oui.
Et du coup, on intégrera cette structure-là.
Ça reste dans le quartier Kennedy, là.
Oui, on restera dans le même quartier, bien sûr. Bah, la volonté, c'est ça, c'est de rester dans ce quartier-là. Parce que souvent, les subventions pour les permanences et même pour la maison de service, c'est tout ce qui va être politique de la ville. Donc, c'est important d'être dans les quartiers prioritaires. Voilà.
Ouais, c'était aussi un choix de la radio, de Radio Vallaud-Mulsien, de s'implanter dans un quartier prioritaire de la ville.
Alors, le centre de formation, quels sont les objectifs, mais qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a comme déclinaison de ce que vous faites?
Alors, on va travailler sur donc lutter contre les violences sexuelles, promouvoir tout ce qui va être égalité femmes-hommes, promouvoir aussi l'autonomie des femmes. C'est pour ça que les conseillers en insertion professionnelle, c'est souvent pour les femmes, soit qui n'ont pas travaillé pendant plusieurs années, donc les remettre dans le marché du travail, essayer de lever tous les freins à l'emploi quand elles ont des enfants, quand elles n'ont pas le permis de conduire, par exemple, etc. Et puis après, c'est aussi tout ce qui va être le volet accès aux droits, où là, c'est plus un volet généraliste et on accueille aussi les hommes, du coup, parce que c'est tous les types de droits. Donc on va plus être sur du droit de la famille, du droit du travail et du droit des étrangers, moi sur mon secteur par exemple. Mais en principe, ça peut toucher n'importe quel type de droit. Dès qu'une personne a un problème juridique, en principe, elle peut venir chez nous.
Pour sauver les gens sur rendez-vous?
Oui, c'est sur rendez-vous. Ouais, c'est essentiellement, il faut appeler. De toute façon, on a les petits flyers, il y a nos numéros de téléphone. Et oui, il faut appeler parce que du coup, moi, on aime bien prendre du temps avec la personne. Donc on prend souvent à peu près une heure avec eux, même si ça prend moins, mais pour qu'ils aient le temps de nous expliquer leur situation.
On va juste donner peut-être les permanences sur Crépy-en-Valois, hein, donc sur rendez-vous, bien sûr. C'est les premiers et troisièmes jeudis, hein, c'est
oui, ça
hein,
oui.
De 9h à 12h.
Oui, exactement.
Donc c'est un plat Jean-Philippe Rameau. Donc c'est la médiathèque, c'est
oui,
à côté, c'est ça.
Premier étage.
Premier étage, voilà. Ouais. Qu'on soit bien précis hein, pour les gens, mais on redonnera tout ça en fin d'émission hein, oui. Pour que les gens puissent noter s'ils ont besoin de vous rencontrer. Ouais, donc le droit de la famille, donc c'est les divorces, les séparations, résidence des enfants, droit de visite, d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, autorité parentale, donc c'est très large, quoi,
oui. Oui. Donc, oui, c'est très large parce qu'on fait aussi tout ce qui va être, par exemple, je sais qu'en ce moment, il y a pas mal, tout ce qui va être succession aussi, les personnes âgées, l'autonomie des personnes âgées, les curatelles, les tutelles, enfin, ça couvre vraiment tous les problèmes de dette, c'est assez très large.
Alors, les gens, ils viennent sur rendez-vous, mais ils sont peut-être envoyés aussi par des...
Oui. Bah, y a un gros travail de partenariat. En fait, l'association, elle ne peut pas exister sans un vrai travail de terrain et de partenaire avec tout le tissu local, que ça soit associatif et institutionnel. Donc, en fait, quand on arrive là, par exemple, la permanence de Crépy, il a fallu envoyer des mails et se renseigner sur les différents partenaires qui pourraient relayer et faire connaître l'association. C'est le but. Donc, du coup, là, c'était la maison départementale des solidarités, donc les assistantes sociales. J'avais été à la mission locale jeune, mais du coup, pour l'instant, j'ai pas réussi à avoir de rendez-vous avec eux, la gendarmerie, enfin voilà, tous ces les écoles, pour qu'un maximum de personnes puissent savoir qu'on existe et qu'on est là s'ils ont besoin. Quoi.
C'est important, oui. Et Lou, tu voulais poser une question, je crois.
Oui, est-ce que le gros travail consiste à faire connaître l'association pour montrer aux gens qu'elle existe, ou est-ce que au contraire, vous avez beaucoup de demandes et vous en avez beaucoup en attente sur les questions?
Je dirais les deux, mais on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail, c'est pour ça que là, moi, depuis quand je suis arrivée, on était 9 salariés, aujourd'hui on est 11, donc en un an déjà il y a eu 2 salariés. Là on va avoir une nouvelle conseillère d'insertion professionnelle qui va être recrutée, donc on a quand même une augmentation assez importante de besoins. On va créer une plateforme parce que du coup on a beaucoup beaucoup d'appels, et en fait nous avant chaque jury gérait à la fois les appels, les mails et les rendez-vous, plus les formations extérieures, donc là ça commence à être plus compliqué. Et donc là à partir de mi-février on va mettre en place une plateforme téléphonique, et du coup il y aura 2 juristes qui répondront tout le temps au téléphone, comme ça pourra y avoir tout le temps quelqu'un qui pourra répondre, parce que là c'était plus aujourd'hui on peut pas répondre tout le temps puisqu'on quand on a un rendez-vous on répond mais pas dans la minute. Donc voilà. Donc il y a les deux. les deux. Après, les partenaires sur l'Oise, ils connaissent bien l'association. Mais c'est vrai qu'après, le grand public, non.
Okay. Oui. Il y a un manque quand même de transparence, peut-être, je ne sais pas, non, ou de communication.
Oui, c'est un problème de communication au niveau national, je pense aussi. Et puis après, CIDFF, ce n'est pas forcément très évident comme nom. Les gens au téléphone, oui. Et là, on va le changer aussi, la Fédération nationale. Elle est en cours pour changer le nom parce que pour que ça soit plus parlant. Par exemple, le planning familial, c'est assez clair pour tout le monde. France Victime, c'est assez clair pour tout le monde. Donc le but, c'est ça aussi, c'est de sensibiliser les gens et de clarifier en fait par un simple nom pour qu'ils sachent exactement de quoi ça parle.
Identifier.
Exactement, ils puissent l'identifier tout de suite.
Alors vous avez une convention aussi avec l'État? Convention d'objectifs avec l'État.
En fait,
ça consiste en quoi alors?
L'association, elle a essentiellement des subventions donc de l'État et après, enfin c'est surtout institutionnel, c'est-à-dire de l'État, du département, des régions et des agglomérations. Et c'est pour promouvoir et pour lutter. Bah, c'est toutes les missions dont je vous ai dit en fait. On participe avec le ministère du droit des femmes, notamment. Il y a le ministère de la justice aussi sur toutes ces questions-là. En fait, de lutte contre les violences. Donc, par exemple, il y a certains CIDFF, parce que nous, ce n'est pas le cas, mais je sais qu'à Paris, ils font ça, qui vont aider le ministère de la Justice sur tout ce qui va être téléphone grave danger. Ils vont être une sorte de France Victime. Il y a certains qui ont les mêmes compétences que France Victime. Donc, c'est là-dessus, en fait. On est à la fois le volet promotion et le volet lutte sur le terrain.
Oui, puis
c'est-à-dire anticiper les problèmes et répondre aux problèmes.
Voilà. Je vois que la Fédération nationale agrège au plan national des données statistiques qu'il recueille. Donc vous recueillez des données que vous transmettez, c'est ça?
Ouais, en fait, on a une application de statistiques et à chaque fois qu'on a un rendez-vous, qu'on a un appel ou qu'on a un mail, on doit le rentrer dans notre appli et à la fin, on doit faire des bilans. Ça nous permet à la fois, nous, de voir à peu près notre activité, comment ça se passe, de prendre du recul parce que quand on a la tête baissée, on n'a pas forcément le recul nécessaire et aussi pour justifier après par rapport à ceux qui nous fournissent en subvention.
Voilà. Hein. Oui, elle est régulièrement auditionnée par les assemblées parlementaires.
Ouais, voilà, exactement.
Donc il y a quand même un suivi qui est sérieux.
Oui.
Voilà, ouais.
Oui.
Et donc, vous travaillez aussi avec la gendarmerie, la police?
Oui, vous avez un partenariat.
C'est ça, vous êtes partenaire du ministère de la Justice et...
Bah, on intervient, par exemple, là, l'année dernière, parce que la gendarmerie, ils ont mis en place tout un système, parce que, en fait, maintenant, les violences intrafamiliales, c'est devenu la majorité de leurs interventions. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un vrai problème de formation sur ces questions-là. Parce qu'il y a des gros préjugés sur les violences conjugales. Et donc, ils ont vraiment pris les choses à bras-le-corps et ils ont mis en place toute une formation obligatoire, notamment au niveau de l'Oise. Mais c'est vrai sur le plan national aussi. Et du coup, on est intervenu pour les former et pour qu'ils nous connaissent aussi et qu'ils connaissent bien notre association. Et qu'ils puissent nous réorienter, en fait, les personnes qui viennent déposer plainte. Ou pour tout autre...
Alors, effectivement, la question des violences des femmes qui portent plainte, qui cherchent à porter plainte ou qui cherchent une aide de la part des forces de l'ordre, aujourd'hui, c'est très présent dans le débat social, public, notamment sur les réseaux. Et par cette formation, notamment des forces de l'ordre de l'Oise, vous sentez que ça avance dans le bon sens, que les forces de police se forment dans le bon sens, ou il y a encore beaucoup de chemin, mine de rien, à faire?
Alors, je pense que vraiment au niveau de la gendarmerie nationale, pour le coup, y a une vraie prise en compte de cette question-là et une volonté de vouloir changer les choses. Ça, c'est certain. Après, sur le plan de la police nationale, je pense que c'est plus compliqué aussi à raison parce que c'est pas les mêmes ministères en fait, hein, tout simplement. La gendarmerie, c'est le ministère de la Défense, c'est l'armée, donc les moyens sont pas les mêmes que par rapport au ministère de l'Intérieur. Donc, je pense qu'il y a vraiment des problèmes de moyens au niveau de la police nationale. Il y a très peu de personnes pour un nombre incalculable de dossiers, donc c'est difficile pour eux. Mais il y a encore du travail, mais ça avance. Mais il y a encore du travail à faire.
Okay.
Parce que voilà, on a quand même pas mal de femmes dont les parcours judiciaires et de la justice sont compliqués à vivre pour elles. C'est compliqué.
Là, j'ai relevé un petit mot de la présidente au niveau de la Fédération nationale, donc Danielle Bousquet. Vous avez fait un petit article, je vais en lire une petite partie. Hein.
Alors, c'est l'ancienne. Hein.
Ah, c'est l'ancienne, enfin, d'accord. Donc, j'étais voir sur le site, donc c'est plus.
Oui, bah, peut-être, non, mais peut-être. Non, je confonds, c'était directrice, moi. C'est la directrice qui a changé récemment.
D'accord, ok. Donc, pas une semaine ne passe sans qu'un ou plusieurs féminicides ne soient annoncés. Pas une semaine sans que de nouvelles familles ne subissent les conséquences des violences sexistes et sexuelles de ces archaïsmes sociétales qui a trop longtemps bénéficié de nos indifférences collectives. Pourquoi la lutte contre les violences dans notre pays n'est-elle pas efficace? Pourquoi l'expérience acquise par les associations féministes dans la protection et l'accompagnement des femmes victimes de violences au sein du couple ou ex-couple ne servirait-elle pas à mettre en place une véritable culture de la protection des femmes? Nous sommes nombreux à exiger une évolution structurelle de la façon dont est considérée de la protection des femmes. Il y a urgence, ce sont des vies qui sont en danger. Donc, il y a quand même une évolution parce qu'on en parle beaucoup plus. Oui. On a l'impression qu'on peut parler plus facilement, mais il y a encore beaucoup de travail quand même. Hein.
Ben en fait, il y a une vraie... Enfin, moi, je vois l'évolution. Le problème, c'est quand on parle avec ces femmes-là, elles trouvent que ça ne va pas vite et qu'elles sont dans des parcours du combattant extrêmement difficiles. On imagine... Enfin, avant de travailler dedans, je pense qu'on n'imagine pas ce qu'elles peuvent endurer. Parce qu'il y a la prise de conscience de la violence, déjà, c'est un choc, parce que bien avant elles sont dans l'emprise, donc elles n'ont pas conscience. Donc il y a une première étape, c'est la prise de conscience. Après, c'est trouver le courage de partir. Pour trouver le courage de partir, il faut pouvoir trouver un logement. Si elle n'a pas de travail, il faut trouver... Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là. Et puis après, c'est essayer d'aller déposer plainte en se disant que ça va résoudre tous leurs problèmes. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Hein. Bien au contraire, hein. La plupart du temps. Déjà parce que le droit n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un gap entre eux, et c'est là où, des fois, elles ont du mal à comprendre, mais ce que j'entends totalement, mais entre la vérité de ce qu'elles ont vécu et ce qui est juridiquement possible. C'est-à-dire que la preuve, on n'a pas de preuve, l'infraction ne sera pas caractérisée et du coup il y aura un classement sans suite, et ça elles l'entendent pas, et je comprends qu'elles l'entendent pas. Et du coup voilà, et je sais que les procureurs, enfin, ou les vice-procureurs, parce qu'on a des cellules de veille entre partenaires, ils essayent de nous faire comprendre ça, de leur dire que c'est pas parce qu'il y a un classement sans suite que c'est pas ce qu'elles ont vécu n'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu violence. C'est juste que ce que le droit permet, il n'y a pas assez de preuves matériels qui permettent de pouvoir dire qu'effectivement il y a eu violence conjugale au sens du droit pénal.
Juste, je vais finir. Donc elle continue dans son article. Elle dit, mais il n'existe toujours pas de politique coordonnée dans tous les acteurs, enfin de tous les acteurs. Donc la justice, les forces de l'ordre, les services sociaux, les professionnels de santé et associations spécialisées. Ça, c'est vrai que c'est un constat qu'on fait quand même, qu'il y a vraiment une coordination à faire à ce niveau-là. Alors.
Oui, c'est sûr. Déjà parce que si on se coordonnait mieux au niveau des dossiers, que ça soit entre partenaires, justice et... Mais on le... Enfin, je sais que là, sur le territoire, ça se fait quand même beaucoup. Hein. On a des réunions, justement, de la fameuse cellule veille sur les violences conjugales entre la justice... entre les policiers, la gendarmerie et tous les partenaires qui travaillent sur ces questions-là. On a des réunions régulièrement, justement, pour poser toutes les questions. Mais oui, c'est un souci, parce que ça permettrait de, parfois, je pense, d'éviter des situations tragiques.
Il y a une grosse différence entre ce que vous constatez sur le terrain et les lois qui existent, encore.
Oui. Ah oui, 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 oui. Bah oui, parce que en fait, on a l'impression que effectivement, il y a beaucoup d'outils et de mesures juridiques qui ont été mis en place pour pouvoir lutter contre les violences conjugales, mais sauf qu'en fait, sur le terrain, les personnes qui peuvent entrer dans ces cases-là, il y en a pas beaucoup. Et c'est ça qui est compliqué.
Donc en fait, faut rentrer dans les cases.
Bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne dans tout.
Problème,
mais
quoi.
Voilà, oui, c'est ça. Et donc, quand on rentre pas vraiment dans une case, c'est compliqué. Ou alors, il va y avoir des situations où, par exemple, la fameuse ordonnance de protection qui permet d'éloigner le conjoint, il faut respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir l'obtenir. C'est pas si simple de l'avoir. Donc, du coup, la plupart du temps, elle se retrouve à devoir cohabiter avec le conjoint violent pendant plusieurs mois quand elles ont entamé les procédures de divorce. Alors qu'elles ont déposé plainte en même temps. Donc en fait, elles se retrouvent en danger dans des situations vraiment compliquées. Donc voilà, le terrain montre que c'est jamais aussi simple que ce qu'on pense.
Lou.
Et est-ce que, du coup, avec toutes ces procédures qui peuvent être parfois très longues, est-ce qu'il y a... Il y a un minimum, en fait, entre une situation toxique dans une famille ou dans un couple jusqu'à l'indépendance finalement obtenue dans la relation. Est-ce qu'il y a des durées ça dépend vraiment de tous les cas, ou est-ce qu'il y a une durée moyenne un peu qui revient? Et aussi, quels sont les retours que vous avez une fois que les femmes ou les personnes redeviennent autonomes, en fait, aussi bien psychologiquement que... que socialement? Est-ce qu'il y a beaucoup de retours? Est-ce que ça, c'est nécessaire aussi de garder le cap psychologiquement? Parce que à force d'entendre autant d'histoires, autant d'histoires, ouais, ça doit être pesant dans...
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Du coup, j'essaye de récapituler pour voir si j'ai bien compris. La première, je ne sais pas, c'est sur la durée. J'ai pas compris.
Sur la durée des procédures entre la situation initiale problématique et la sortie de cette situation problématique.
Alors là, je ne peux pas donner de durée parce que c'est trop compliqué. Chaque cas, pour moi, est différent. Mais ça peut durer des années. Ça peut durer des années entre la sortie. Puis en plus, après la sortie, ça ne veut pas dire que c'est terminé. C'est bien ça le problème. C'est qu'après, le harcèlement, il continue. Ouais. Mais non, c'est que c'est pas parce qu'elle a quitté le domicile qu'il la laisse tranquille, en fait.
Ouais.
C'est qu'après, ça continue, en fait. Le harcèlement continue. Elle peut déménager à l'autre bout. Lui, il va la rejoindre. Il va continuer à l'appeler. Et en plus, le problème, c'est quand il y a des enfants, là, ça permet de faire une pression qui continue jusqu'à. Parce que les enfants, c'est toute une vie, ou jusqu'à 18 ans, ou du moins. Et donc voilà, il y a tout ça. Et après, sur l'impact psychologique pour nous, vous voulez dire salariés ?
Oui, entre autres.
Et ben on a une ce qu'on appelle une analyse des pratiques, supervision avec une psychologue une fois par mois.
Ok.
Pour discuter celles qu'ils veulent, mais c'est plus les juristes et la psychologue, ouais. Bah oui, parce que ça nous permet de nous déjà pouvoir parler entre nous des situations qui sont très, c'est des traumas hein, qu'elle nous raconte et qui peuvent nous être aussi des traumas et difficiles à gérer et pouvoir savoir si dans certaines situations on a bien agi ou pas. Donc oui, bien sûr.
Je voulais intervenir sur ce que vous avez dit. Je reprends les cas qu'on a eu en début d'année, hein, parce qu'on a eu déjà des féminicides, malheureusement, ça continue. Hein, et notamment les conjoints, hein, il y en a qui sortaient de prison. Et la femme n'était même pas prévenue. Donc, et puis on parle aussi de cas des enfants, parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent derrière après? Parce que comment on s'en occupe? Comment on les protège, ces enfants? Parce que derrière, ils n'ont plus de maman et tout ça. Qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi?
Mais alors, je trouve que la question de la parentalité dans les cas de victimes de violences conjugales, elle est très compliquée. Et par la justice aujourd'hui, elle fait beaucoup de débats. Bah, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu le juge Durand, celui qui est coprésident de la cellule sur l'inceste, les victimes d'inceste, je me souviens plus du titre, hein, mais lui, en fait, c'est un ancien juge des enfants qui lutte justement sur cette question-là de dire qu'un père violent, un mari violent est un père violent. Et qu'en fait, le problème de la justice aujourd'hui, c'est qu'elle ne fait pas du tout
ce lien-là.
Ouais, ce lien-là du tout. C'est-à-dire qu'elle part du principe que, justement, un père violent ne sera pas forcément un mauvais père. Alors que les enfants, la plupart du temps, déjà, même s'ils n'ont pas été témoins directs, ils sont témoins indirects, victimes indirectes des violences. Et ça va avoir un impact psychologique certain. Et en plus, la plupart du temps aussi, des fois, il y a une violence. Parce que quand on parle de violence conjugale, il ne faut pas entendre que violence physique, hein. Dans la majeure partie des cas, c'est de la violence psychologique qui est du coup fait beaucoup beaucoup de mal. Et après, on le voit bien dans les enfants, dans leur construction en tant qu'hommes et femmes, dans leur réaction, ça va avoir un impact psychologique. Et du coup, la lutte aujourd'hui, par certains, nous, notre association notamment, mais aussi par certains spécialistes, c'est de faire entrer l'idée que un père violent doit se voir retirer au moins temporairement ses droits parentaux pour que les enfants puissent se reconstruire avec. Oui. Et je dis père, mais bien sûr qu'il y a aussi des femmes violentes, mais c'est tellement, le pourcentage il est tellement faible que c'est pour ça que j'ai tendance à dire père violent et homme et femme victime. Je raccourcis.
Moi, je voudrais venir à quelque chose de plus général, puisque le centre d'information sur le droit des femmes, le problème des féminicides et tout ça, ça prend quelle part dedans?
Nous, on n'est pas
dans le centre d'information, parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment.
Mais... nous, on a jamais, enfin, je ne crois pas dans l'histoire du CIDFF, hein, qu'on a accompagné des femmes qui ont du coup été tuées. Mais c'est, disons que
les violences conjugales,
pour moi,
quoi.
Par toutes les actions qu'on fait, ça répond à la lutte contre les féminicides. Toutes les actions qu'on fait, c'est-à-dire que ça soit en amont sur l'éducation des enfants, parce que c'est ça l'avenir et c'est ça le plus important, c'est éduquer les enfants sur ce qu'est un rapport, une relation amoureuse épanouie, affective, le rapport égalité femme-homme, le respect des uns et des autres, que ça soit qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit non-genré, etc. Voilà. Toutes ces possibilités qui permettent après aussi de pouvoir diminuer ces faits de violence. Et puis après, il y a aider les personnes victimes aussi dans leur parcours. Il y a tout ça. Ces deux volets-là. Donc ça participe, l'ensemble de nos actions et de nos missions participent à ça.
Donc vous faites des formations dans les écoles?
Oui, en fait, on intervient donc en primaire, en cycle 3, donc à partir du CM1, CM2 jusqu'au lycée.
C'est quelque chose d'officiel ?
Oui. On intervient alors plus sur les dans les quartiers prioritaires de la ville. Mais aussi, là par exemple, on intervient, moi sur le secteur de Creil, beaucoup sur Montat Terre, mais à Senlis, à Verberie, à B notamment. Mais après, on envoie en fait. Hein. Là en ce moment, on entraîne beaucoup parce que ça a été malheureusement suspendu pendant la.
Avec le confinement.
En 2020, on n'a pas fait beaucoup d'interventions. Mais oui, puis là, on est en train de refaire toutes nos formations là-dessus. Donc on fait une partie sur tout ce qui va être égalité femmes-hommes, lutte contre les stéréotypes avec les enfants. Et puis après, on bascule sur les relations affectives et sexuelles, sur la question du consentement, sur les violences, et notamment aujourd'hui sur le problème des réseaux sociaux, du cyberharcèlement, qui pose vraiment beaucoup de soucis au niveau des collèges et des lycées.
C'est croissant dans ce que vous avez comme cas qui vous contacte, comme personne qui vous contacte ?
Sur les cyberviolences ? Oui. La majorité des femmes victimes de violences conjugales sont victimes de cyberviolences.
Okay.
C'est-à-dire que ce qu'on fait maintenant, l'automatisme qu'on a, c'est qu'on leur demande d'éteindre leur téléphone portable, on le met dans une boîte et on le met dans une armoire. Parce qu'en fait, on a constaté qu'avec les logiciels espions, les traceurs GPS, etc., c'est très facile aujourd'hui d'en obtenir, pas forcément très cher, et on n'a pas forcément besoin d'être un as en informatique. Et donc, du coup, on fait très attention à ça.
Là, c'est quelque chose qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation. Donc, c'est la même information pour tous les collèges, pour toutes les écoles ?
Alors, en fait, c'est une possibilité qu'effectivement les établissements scolaires ont. Après, ils sont pas forcément, c'est pas une obligation. Hein, ils le font pas tous.
Mais
oui. Mais après, ça demande aussi une organisation, une mise en place, etc. Mais après, je pense que, la plupart sont très intéressés. Mais nous, après, on peut pas non plus faire tous les établissements scolaires. On n'a pas les salariés, le support nécessaire pour pouvoir faire tous les établissements scolaires de l'Oise. Mais ça fonctionne bien parce qu'en plus, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'il y a un fil conducteur. C'est-à-dire que ça part vraiment, ça soit les mêmes personnes qui aient les premières formations en CM1 jusqu'au lycée. Parce qu'une une intervention ne va pas suffire à une prise de conscience. Prise de conscience, ça va être continue et diffus justement pour qu'ils se rendent compte et qu'ils agissent après dans leur vie de tous les jours.
C'est pas la même information quand on a 9 ou 10 ans et quand on en a 15 ou 16.
Oui. Après, aujourd'hui, 17. On en entend beaucoup plus parler qu'avant, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, ils en entendent quand même beaucoup plus parler qu'avant.
Et alors, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a de plus en plus de cas aussi de plus en plus jeunes, puisque les questions de relations, d'intimité, etc., sont abordées de plus en plus jeunes, notamment par l'accès à Internet où il y a tout et. Tout est accessible. Alors, est-ce que les violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou par le cyberespace, est-ce que c'est de plus en plus jeune aussi ?
Oui, on a constaté dès l'âge de 10 ans hein, des problématiques de nudes, par le biais des réseaux sociaux, que ce soit les jeux vidéo ou voilà, choses comme ça. Parce qu'en fait, vu que c'est loin, éloigné, ils n'ont pas conscience du danger, les enfants, surtout à cet âge-là. Hein, ils n'ont vraiment pas conscience. Et ils vont être aussi beaucoup plus violents dans leurs propos parce que la personne n'est pas là. Ils n'auraient pas dit la même chose devant s'ils avaient eu la personne en face d'eux que sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi ça qu'il faut leur faire prendre conscience. C'est à la fois attention à ne pas diffuser n'importe quoi sur eux-mêmes, parce qu'en fait, à partir du moment où c'est parti, c'est difficile de récupérer les données. Et attention à son comportement aussi par rapport aux autres.
Moi, ce que je vous propose, c'est le choix musical de Louise. Et on se retrouve juste après.
Ouais.
À tout de suite. Vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui l'association, c'est le Centre d'information pour le droit des femmes et des familles. Voilà.
De l'Oise.
De l'Oise, on précise bien. Et donc c'est Louise qui nous a proposé son choix musical, Océan Full of Stars, et la chanson s'appelle Dreaming of Ghosts. Donc je répète, Océan Full of Stars.
Ouais.
Donc ça c'est une musique qui détend un petit peu, c'est
voilà.
Ça ouais, ça fait du bien.
Ouais, elle me fait du bien, ouais.
Donc je rappelle aux auditeurs que si vous voulez poser des questions à Louise, donc il y a le Facebook de RVM FM, le téléphone c'est le 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Hervé, tu voulais intervenir, je te laisse la parole.
Oui, moi je voulais intervenir puisqu'on parle justement des droits des femmes et des familles. Donc je voulais mettre un petit coup d'éclairage sur une féministe, disons, de la Révolution, Marie Gouze, veuve Aubry, dite Olympe de Gouges. Elle est née en mai 1748 à Montauban et elle est morte guillotinée au mois de novembre 1793 à Paris. C'était une femme de lettres française qui est devenue une femme politique. Elle est considérée comme une des pionnières du féminisme français. Peut-être pas la première, mais une des premières.
Il y avait hein. Toutes les sorcières avant.
Voilà. Non, donc voilà. Elle est rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et elle a laissé de nombreux écrits et pamphlets en faveur des droits civiques et politiques des femmes et de l'abolition de l'esclavage des Noirs. Elle est souvent prise pour emblème par les mouvements pour la libération des femmes. En 1791, elle écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, c'est une déclaration où il y a 17 articles. Et donc, comme elle a été guillotinée, avant d'être guillotinée, dans l'article 10, elle met... La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Donc la déclaration de l'âme de gauche part de l'idée que les femmes, qui possèdent toutes les facultés intellectuelles, ont par nature les mêmes droits que les hommes. La nation étant définie comme la réunion de la femme et de l'homme, elle en déduit que la constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'ont pas coopéré à sa rédaction. Un principe de base, selon Gouges, est que l'identité des devoirs doit entraîner celle des droits. Olympe réclamait un traitement égalitaire envers les femmes dans tous les domaines de la vie, tant public que privé, avoir droit au vote et à la propriété privée, pouvoir prendre part à l'éducation et à l'armée, exercer des charges publiques, en arrivant même à demander l'égalité de pouvoir dans la famille et dans l'Église. Est-ce que ça a beaucoup évolué depuis 1791 ?
Ah bah oui. Oh bah sinon, ça serait déprimant quand même. Hein. Moi, je dis toujours que souvent les personnes disent c'était mieux avant. Moi, je dis toujours qu'en tant que femme, je ne pourrais jamais dire c'était mieux avant. Moi, je suis très contente d'être née dans cette époque.
Mais c'est un combat.
Et je pense que les enfants et petits-enfants seront très contents de vivre à leur époque. En espérant que ça.
C'est un combat qui est entamé depuis des siècles et qui est obligé de continuer encore à l'heure actuelle.
Oh bah oui, bien sûr que oui. Oui. On est
c'est
loin d'avoir
normal.
Fini.
C'est pas normal.
Oui, je suis d'accord, ce n'est pas normal, mais c'est tellement ancré en fait dans le système et dans les valeurs que c'est très difficile. Et puis aussi parce que ceux qui ont les privilèges, et je le comprends tout à fait, ne veulent pas se les voir enlever.
Mmh. Alors il y a quand même une nuance que j'aimerais apporter sur, là-dessus, sur le fait de dire avant c'était pire, ce qui est le cas sur les siècles précédents dans notre société, mais bien des peuples et des civilisations par contre avaient une toute autre société et de toute autre croyance. Il y avait des sociétés matriarcales, ça existait, il y a eu des périodes prospères, comme cette vision absurde, comme l'histoire n'était que succession de conflits et de guerres, c'est une vision qu'on déconstruit de plus en plus, c'est la même chose, c'est aussi quelque chose qu'on fait de déconstruire sur la place de la femme dans les sociétés. Nombre d'articles apparaissent en ce moment en disant... on s'est rendu compte que la découverte de tel squelette guerrier était en réalité une femme. On s'est rendu compte qu'à la préhistoire, les femmes chassaient. Non, mais vous vous rendez compte, quand même, c'est hallucinant. Il y avait des guerrières vikings, il y avait des druidesses celtiques.
Bah, je lis un livre en ce moment qui parle de ça, justement. Mais moi, j'entendais par exemple, la Renaissance, par exemple. On dit toujours que la Renaissance ou le siècle des Lumières, c'est la période où l'homme a évolué, l'homme moderne, alors qu'en fait, les femmes derrière, c'était tout le contraire. Quoi. Ouais. C'était un recul par rapport au Moyen-Âge sur leurs droits. Etc. Ah ouais. Ouais, je vous invite d'aller lire le dernier livre de Titiou Lecoq.
Donc Titiou Lecoq.
Oui, son dernier livre.
Bon, dans le centre d'information donc sur le droit des femmes et des familles. Donc on a parlé de la partie qui concerne les problèmes de famille, mais il n'y a pas que ces problèmes-là que vous avez à résoudre.
Oui, effectivement. Bah, vu qu'on a le volet accès au droit, la mission accès au droit, on couvre toutes les problématiques de droit. Et notamment, donc, le droit de la famille, c'est sur ce quoi on travaille le plus et les personnes qui nous appellent. Mais on a aussi beaucoup de droits du travail et moi, sur mon secteur, beaucoup de droits des étrangers. Après, vraiment, ça dépend des... Enfin, quand j'en discute avec mes collègues, ça dépend vraiment des... Moi, je pense de la structure des secteurs et des populations qui y vivent. Du coup, on s'adapte en fait aux populations qui y vivent. Moi, mon secteur, Creil, il y a quand même beaucoup d'étrangers. Et d'étrangers sans papier, donc j'ai beaucoup de droits des étrangers à faire, et pas mal de droits du travail, mais j'ai une collègue, elle va faire vraiment beaucoup, beaucoup de droits de la famille. Et très peu de droits des étrangers, voilà,
Les sans-papiers viennent vous voir ?
Oui, parce que...
Il n'y a pas un risque d'aller s'exposer ?
Non, parce qu'on n'est pas la police ou la gendarmerie.
Non, mais pour eux... Est-ce qu'ils n'ont pas peur de venir parce que justement, ils craignent...
Bah, en fait, c'est des personnes qui vivent en France depuis plus de 10 ans, 15 ans. Donc, en fait, ils ont une vie. Ils travaillent au noir pour certains. Ils ont des enfants qu'ils emmènent à l'école. Ils vont faire des courses. C'est juste que ce qu'ils craignent, c'est le contrôle d'identité. Ouais. Mais sinon, ils vivent. Hein. Ils ne sont pas reclus chez eux, enfermés dans leur maison.
Ça arrive à se régulariser parce que... On voit le cas, par exemple, de gens qui travaillent depuis 10 ans, qui ont des feuilles de paye, qui payent la sécu, qui payent des impôts, et qui n'ont toujours pas de...
Non, c'est très compliqué, puis ça ne va pas aller en s'améliorant, malheureusement, avec les politiques d'immigration. Hein. Mais non, c'est très, très compliqué. Et puis, en plus, avec la pandémie et le Covid, ça a encore plus... Enfin, l'accès aux services publics est devenu... d'ailleurs, les personnes qui ne sont pas étrangères à la préfecture pour renouveler son permis de conduire ou lorsqu'on veut... On se les fait voler. Ils se rendent compte, en fait, maintenant, de la bataille que c'est pour avoir accès à quelqu'un, pour pouvoir parler, pour savoir quelle est la procédure à suivre. Mais les étrangers, ils vivent ça depuis toujours et ça a accentué cette problématique-là. Et maintenant, même des étrangers qui avaient des titres de séjour depuis des années et des années ont des grosses difficultés à renouveler leur titre de séjour.
Il y a une question plus générale, moi, que je voulais poser. Maintenant, tout est informatisé.
Mais oui, ils en ont profité avec la pandémie pour justement, effectivement, faire ça.
Sans aucun processus démocratique.
En dehors des étrangers, tout ça, tout est informatisé, que ce soit pour la succession, que ce soit pour un tas de choses. Vous êtes un peu le dernier recours, la dernière personne qu'on peut voir physiquement.
Il n'y a pas que nous, non, hein, mais les assistantes sociales.
C'est
très important de pouvoir garder un lien comme ça, physique et humain, avec les personnes, parce que en fait, c'est très compliqué, les procédures, que ça soit juridique, administrative, pour les droits sociaux, etc. C'est très compliqué. Et puis en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde ne rentre pas dans les cases. Donc après, les gens, ils vont pas savoir où est-ce qu'ils doivent aller, où est-ce qu'ils doivent s'inscrire, qu'est-ce qu'ils doivent demander. Enfin voilà, la CAF, c'est devenu une bataille assez importante, justement, pour les personnes quand elles ont du mal à avoir accès à eux, quoi. Mais oui, il y a vraiment cette grosse tendance de enlever les personnes, enfin de plus avoir accès à une personne physique, que ce soit à la préfecture ou dans d'autres structures.
Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils ont des droits.
Oui.
C'est ça, oui. C'est ça qui est...
Ah oui, il y a plein de personnes qui ne savent pas qu'ils ont une possibilité, enfin accès à un muté. Oui. Mais ça, c'est en France, on fonctionne, même je pense dans d'autres pays, on doit connaître le droit, on doit connaître la règle de droit. Sauf qu'en vérité, personne, enfin il y a plein de gens qui ne connaissent pas la règle, à part le code de la route, ça, je pense que la majorité des gens le connaissent. Mais pour le reste, je pense que, par exemple, je ne sais pas, je vais te donner un exemple, mais un couteau, avoir un couteau sur soi, en vrai, c'est illégal et ça peut être considéré comme une arme, c'est une arme blanche par destination. Donc voilà, il y a des choses comme ça dont on ne se rend pas compte. Enfin voilà, après, dans la pratique, ça ne va pas embêter.
Dans les pratiques, il y a des consultes tous les week-ends.
Et donc, la période présidentielle, est-ce que ça peut changer les choses pour vous? Est-ce que ça peut être évolutif ou ça peut être au contraire, comme vous disiez, notamment pour les migrants, est un peu plus complexe?
Ah oui, bien sûr que ça change. Ça va changer en fonction de quelle personne va diriger le gouvernement, parce qu'on a des subventions de l'État quand même. Et c'est pour ça que nous, on essaye de plus autonomiser pour ne pas avoir à dépendre justement trop de ces subventions qui nous permettraient justement d'avoir un impact important. D'avoir plus les mains libres pour pouvoir agir comme on l'entend.
C'est le cas d'énormément d'associations qui cherchent leur indépendance au-delà des subventions publiques.
Et donc, faut-il un pass vaccinal pour aller vous voir ?
Non, l'accès aux services publics, le pass vaccinal, pour le moment, après, je ne connais pas les nouvelles, je ne me suis pas à jour des nouvelles.
Parce que ça évolue à chaque fois,
mais
à
nous,
chaque semaine.
Par exemple, moi, un de mes bureaux, enfin mon bureau principal, c'est à la Maison de la Justice et du Droit de Creil, et toutes les personnes peuvent rentrer, on ne leur demande pas leur pass vaccinal.
Très bien.
Enfin, pass
sanitaire. La loi, elle évolue tout le temps, donc vous avez une formation permanente.
Ah, le juriste, oui, c'est le principe, il doit toujours faire une veille juridique pour pouvoir se mettre à jour des réformes, notamment en droit des étrangers. Hein. À chaque nouveau président, à chaque nouveau gouvernement, il y a une nouvelle loi qui sort. Toujours.
Mais là, il y a aussi sur les droits en général, sur ce qu'on peut avoir comme aide et choses comme ça. Ça change sans arrêt.
Oui. Là, en droit du travail, ça change. Alors, les aides sociales, c'est moins notre domaine. Ça va plus être les assistantes sociales, ça.
D'accord.
Mais le droit est multiple. Enfin, tout est droit. Donc, puis, on a tendance à tout légiférer. À chaque fois qu'il y a, un problème, un fait divers, la réponse politique, souvent, c'est on légifère. Sauf qu'il y a déjà des lois qui existent et qui sont mal utilisées.
Parce que là, justement, on évoquait ça tout à l'heure. Le droit du travail, là, a beaucoup évolué avec le télétravail.
Oui.
Donc, vous avez quand même pas mal de litiges.
Alors, sur le télétravail en tant que tel, non. Par contre, on a eu beaucoup, beaucoup d'appels sur la question du vaccin obligatoire pour certaines professions. Au début, quand c'est parti sur les infirmiers, les infirmières, etc., qui refusaient de se faire vacciner, et du coup, dont on suspendait le contrat de travail, donc savoir si c'était légal ou pas, on a ces questions-là. Après, oui, il y a eu des ruptures de période d'essai, des ruptures des licenciements pour faute grave qui étaient injustifiées, enfin voilà, des choses comme ça, pour couvrir, en fait. Moi, je pense que ça aurait plus dû être des procédures de licenciement économique qui sont beaucoup plus lourdes, en fait. Et du coup, ils vont se cacher derrière... En plus, des grosses entreprises qui font ça. Hein, donc, des entreprises qui ont une très bonne connaissance du système juridique du droit du travail.
Qui ont des juristes.
C'est pas des petites... Voilà, exactement. C'est pas des petites PME, d'ailleurs, bien sûr.
Mais là, il y a pas mal de litiges, quand même.
Oui. En droit du travail...
Le télétravail, c'est... moi, je télétravaille, mais est-ce que... Mon employeur, il est obligé de me donner un siège ergonomique, un bureau.
Oui, il y a cette question. Alors nous, on ne l'a pas eu, mais oui, c'est une question qui se pose sur l'indemnité en fait, du télétravail. Parce que quand on est en télétravail, on utilise notre Internet. Effectivement, on est chez nous, on utilise notre électricité, notre eau, etc. Donc ça, en fait, ça fait normalement, c'est obligatoire d'être indemnisé. Il faut être indemnisé.
Et au niveau du droit du travail, je repense, quel est le profil des femmes qui viennent vous voir pour se réinsérer? C'est des mères de famille? C'est quoi? C'est des gens qui n'ont jamais travaillé ou c'est des gens qui avaient déjà connu l'emploi?
Alors ça, je vais essayer de répondre, mais oui. Je ne suis pas très bien placée puisque c'est plus ma collègue, Virginie Baresco, qui est conseillère en insertion professionnelle à Creil. C'est souvent des mères de famille, justement. Oui. Soit qu'on arrêter de travailler pour avoir des enfants, soit qu'on n'a jamais travaillé, et aussi qu'on n'a pas de permis de conduire et du coup qui ne facilitent pas la recherche d'emploi. Donc en fait, leur travail à mes collègues, souvent, c'est de lever les freins déjà. Donc savoir au niveau des emplois du temps par rapport aux enfants, quelles sont les possibilités pour elles de trouver du travail. Donc on va partir peut-être sur des temps partiels et après savoir si elles ont un permis de conduire ou pas. Si oui, comment faire, trouver des subventions, des formations pour qu'elles puissent pouvoir trouver du travail et passer le permis de conduire.
Oui, ça c'est important, le permis de conduire, oui, c'est indispensable, hein, on peut dire même.
Oui,
À part dans les grandes villes où peut-être qu'il y a des transports en commun, mais par chez nous, il faut vraiment un permis. Quoi, hein.
Après, à Creil, c'est vrai que du coup, ils prennent beaucoup le train, hein, parce qu'en fait, la gare, elle va directement sur là. Il y a beaucoup d'habitants de Creil qui travaillent en région parisienne. Hein.
D'accord.
Mais oui.
C'est Hervé. Sur leur ancien parcours, vous travaillez sur leur ancien parcours. Et pour avoir un CV ou des choses comme ça.
Oui, voilà, ils travaillent sur le CV, la lettre de motivation, les entretiens, la manière de s'habiller aussi.
Leur apprendre.
J'ai une de mes collègues qui fait du conseil de la colorimétrie, du conseil d'image de soi, sur justement comment se tenir, comment s'habiller, pour pouvoir paraître ce qui nous va ou nous va pas, parce que l'image est hyper importante dans les entretiens d'embauche.
Et comment parler.
Exactement, ouais. Okay. Comment s'exprimer.
Oui, tout ça, c'est important.
Se vendre, en fait. C'est pas forcément quelque chose de facile. Parce que c'est ce que les entreprises...
C'est pas quelque chose de facile à entendre, savoir se vendre.
Oui, ça c'est sûr.
Et comment on peut vous aider? Comment adhérer? Est-ce qu'il y a une possibilité d'adhérer? Est-ce qu'il y a des possibilités de vous aider? Quels sont vos besoins en ce moment?
On n'est pas vraiment une association par exemple, on n'a pas forcément de bénévoles. Vous pouvez adhérer, ça c'est sûr. Vous pouvez faire partie du conseil d'administration si vous avez envie. Parce que je crois que il y a eu un moment où on manquait justement de membres du conseil d'administration. Donc si vous avez envie d'adhérer au conseil d'administration, vous êtes les bienvenus. Après, il faudra contacter la présidente qui est Anne Faburel sur Beauvais. Et après, comment nous aider? Nous faire connaître. Parler de nous. La meilleure des choses.
Voilà.
Savoir ce qu'on fait, les possibilités, pour ne pas hésiter à nous faire intervenir pour qu'on présente l'association et que chacun sache de ce qu'on fait.
Ce qui est fou, excuse-moi Hervé, c'est que ça a été créé en 1982 dans l'Oise.
Oui.
Donc ça fait 40 ans
on va fêter les 40 ans cette année.
On vous connaîtrait pas, quoi. Donc il y a du boulot.
Oui, il y a du boulot de communication sur tout le réseau national. Hein. Mais moi-même, avant que je travaille dans cette association-là, alors que je suis féministe et que je suis militante dans d'autres associations, je ne connaissais pas.
Et donc, je vais juste préciser avant de donner la parole à Hervé, c'est que le premier centre d'information féminin, ça a été créé à Paris en 1972.
Oui.
Donc ça fait 50 ans. Voilà.
C'est ça en fait, les 50 ans cette année. Oui.
C'est pas si vieux que ça en fin de compte.
Oui, c'était après mai 68 en fait, après tout ce mouvement-là que ça a été créé.
Hervé.
Simplement en dehors des permanences qu'il y a. Est-ce que vous faites des actions ponctuelles?
Oui, on fait des actions ponctuelles. S'il y a des structures qui ont besoin, soit des besoins de formation, ou soit pour qu'on intervienne sur un sujet particulier dont ils ont besoin, soit pour leurs salariés, soit, je ne sais pas. Moi, par exemple, il y a une association à Creil qui s'appelle Intermed, auquel j'interviens plusieurs fois dans l'année en fonction de leurs besoins. Alors après, ça va être payant ou pas, ça va dépendre justement... des associations et des besoins.
Parce qu'il y a plusieurs associations dans la région qui travaillent déjà avec des femmes qui apprennent le français ou des choses comme ça, d'apprenantes. Vous n'avez pas d'intervention dans ces...
Sur mon secteur, sur le secteur de Creil, j'interviens avec elles. Ouais.
Et est-ce qu'on pourrait vous voir au Forum des associations?
Alors moi, je sais que mes collègues, elles y vont, elles sont présentes à certains forums d'associations.
Nous, on n'a pas vu ça encore à Crépy, donc...
Crépy, non. Non, mais c'est nouveau, notre... Je crois, il me semble qu'il y a quelques années, mais moi, je n'étais pas là, on avait une permanence à Crépy, mais qui a disparu après, peut-être manque de, enfin, de besoins, je ne sais pas.
Parce que tu en parles des moyens de vous faire connaître, donc là, je pense que...
Ah oui, il faudra des associations pour l'année prochaine, oui.
On va créer une permanence à la radio, hein. On va vous inviter une fois par mois pour parler de...
parler d'une problématique en particulier,
les gens,
résoudre.
Les gens, voilà, les gens...
Comment faire
Les gens appellent pour donner leurs problèmes et on fait une émission.
On récupère les questions et on vous les donne après, Louise. Voilà. On va vous faire bosser encore un peu plus.
Si j'avais un emploi du temps extensible avec
plaisir.
Bah oui,
là, je me doute bien que ça doit être compliqué en ce moment. J'ai juste l'équipe, juste en face de moi, j'ai récupéré le document là où il y a l'équipe du CIDFFF de l'Oise.
Ouais.
Donc la directrice, c'est Christine Guenet, c'est
ça ? Exactement.
Et il y a une chargée d'accueil et d'information qui s'appelle Karima Siab.
C'est ça.
On peut peut-être laisser le téléphone de Karima, peut-être ?
Oui,
pour
oui.
Pour les
oui.
gens qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc c'est le 03 44 15 74 12. Je le mettrai sur le Facebook de la radio pour les gens qui veulent poser des questions directement, puisqu'on a un accueil et pour avoir des informations, autant aller voir les personnes qui peuvent répondre. Et on vous laissera un peu plus tranquille, Louise, comme ça. Donc, vous voyez comment cette année 2022, Louise, alors ?
Il y a plein de projets. De projets pour l'association. Il y a beaucoup de choses en route, donc plutôt bien. Plutôt bien, même si effectivement il y a toujours, enfin c'est inquiétant de se dire qu'il y a toujours autant de travail sur ces questions-là, hein, mais voilà, ça, moi je suis là où je suis optimiste, c'est que du coup maintenant on nous donne plus de moyens quand même, un peu plus, même si c'est jamais assez, pour pouvoir faire des choses. Donc ça c'est bien.
Et donc là, les problématiques, c'est plus en ville, plutôt à la campagne, ou c'est équilibré ?
Alors, justement, maintenant, là, en 2022, on a déjà commencé en 2021, mais vraiment ciblé aussi le rural. Donc
un
on
peu,
fait des permanences rurales.
Un peu abandonné, quoi.
Voilà,
c'est
exactement,
ça.
Parce qu'il y a quand même des endroits dans l'Oise qui sont... Donc oui, on fait des permanences rurales. Et en fait, justement, le système de la plateforme qui va naître là, mi-février, j'en parle quand même, mais parce que je sais que ça va avoir lieu, donc c'est pas non plus une grosse surprise, elle a pour but aussi de ça, de permettre à tous, même les personnes qui n'ont pas moyen de transport et qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont assez isolées, de pouvoir avoir accès... aussi à ces questions aux juristes pour pouvoir répondre à leurs problématiques.
D'accord. Sur un moment, ils avaient fait des petits bus comme ça qui passaient dans les villages.
Oui, alors,
est-ce que c'est un projet que vous auriez, par exemple,
alors,
d'avoir
sur l'Oise, il n'y en a pas.
Je sais que, de cette manière.
Je sais que les bus, il y en a sur les restes de la région, il y en a, mais dans l'Oise, on n'en a pas pour le moment. Mais c'est un projet. Il y a voilà, il y a cette plateforme, il y a ces permanences rurales. On essaye de cibler, d'aller en fait vers. Le but, c'est voilà, c'est d'aller vers. Ils aiment bien ça, justement. Ceux qui, les politiques, quand on dit aller vers.
Le confinement a créé quand même des problèmes la campagne, aux gens qui sont isolés.
Oui, oui, bah, je pense que ça a encore
plus. Ville.
Je ne sais pas si c'était plus qu'en ville, parce que le problème en fait du rural, c'est qu'on n'en entend pas parler. Et puis en plus, les personnes, dès qu'elles commencent à en parler dans leur entourage, tout le monde, ça se sait très vite. Donc elles ont du mal à se confier, je pense. Il y a aussi ça, cette image des autres. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des permanences rurales, mais je pense que aussi il y a certaines personnes qui vont être dissuadées par le fait d'avoir peur d'être reconnues.
Ah oui.
Et
ah,
du coup,
oui.
Je pense que la permanence téléphonique, elle va permettre aussi cet anonymat pour elles. Voilà.
D'accord. Et on est dans des grosses problématiques de santé en ce moment. Est-ce que ça fait partie de vos missions aussi, de l'aide aux soins, par exemple, des enfants qui sont dans des familles où ils ne peuvent pas se soigner, tout ça ? Est-ce que vous pouvez apporter un petit plus là-dessus ou pas ? Ou c'est pas dans vos compétences ?
Non, ça va pas être dans nos missions. Après, je sais qu'au niveau de la Fédération nationale, ils ont fait toute une campagne sur les aidants. Parce que voilà, c'est une question. Mais nous, au sein de l'association, bah nous, s'il n'y a pas de problématique juridique ou psychologique ou en lieu avec l'insertion professionnelle, ça va être, on va réorienter.
Oui, chacun dans ses compétences, quand même. Voilà,
ça, je l'ai pas dit, mais on a aussi une mission de réorientation. C'est pour ça que c'est très important de bien connaître tous les partenaires sur le territoire. C'est qu'on réoriente vers les associations et les personnes qui sont compétentes.
Voilà, vous avez beaucoup de partenaires.
Hein, oui,
c'est,
oui.
C'est impressionnant.
Oui.
Et donc, on rappelle quand même que c'est sur toute la France. Hein. C'est pas que là, vous êtes... Alors, on vient parler de l'Oise, mais il y a 104 ou 105, je crois...
Oui, je ne connais pas le chiffre exact, mais on couvre... Alors, c'est indépendant. Chaque association est indépendante, mais c'est un réseau, effectivement, qui couvre tous les départements, à peu près tous les départements de France et d'outre-mer également. Mmh. Et voilà, il y a une fédération nationale, oui.
Voilà, donc il faut bien préciser les choses.
Ah oui, qui va collecter toutes les informations de l'année.
Qui remonte et qui fait le lien avec les politiques, qui fait de du lobbying, en fait, sur tout.
La statistique
aussi. Bah, la statistique et puis le lobbying aussi pour remonter quand il y a des projets de loi, pour essayer de faire changer les lois. Parce que nous, on remonte en fait toutes les problématiques de terrain et eux, après, ils essayent de les faire changer Par exemple, à chaque fois, ils sont souvent questionnés à l'Assemblée nationale, dans les commissions, etc.
Oui, c'est ce qu'on a dit en début d'émission, ouais, là, qu'il y avait ce partenariat avec l'État. Mmh. Ouais. Donc, messieurs, il nous reste très peu de temps. Avez-vous une dernière question à poser à Louise ?
Non, juste rappeler, du coup, n'importe quelle personne ayant besoin d'une aide juridique, que ce soit par rapport à la famille, au travail, peut venir. C'est pas seulement, malgré le nom encore assez marqué, c'est pas seulement les femmes et les questions familiales, c'est n'importe quelle personne ayant besoin d'aide peut venir aux permanences d'accueil.
Oui. Okay. Oui, c'est ça, exactement.
Hervé ?
Non, moi ça me va, c'est centre d'information, donc c'est quels que soient les problèmes.
Oui, en droit.
En droit.
Oui, ouais, c'est droit. Ça. Oui.
Si j'ai un litige
pour les permanences juridiques, oui.
Si j'ai un litige avec les impôts, je viens vous voir ou pas ?
On peut, ça va dépendre. Après, moi, je réoriente. Si je vois que je ne peux pas vraiment répondre à la question ou que je ne peux pas faire grand-chose, je réoriente. Mais oui, j'ai eu des personnes qui avaient des problèmes avec les impôts.
Ce dont on n'avait pas parlé, si on a encore une petite minute, c'est, on disait tout à l'heure, la gendarmerie vous envoie des cas.
Oui, ils réorientent. Ils réorientent parce que ça va être une personne. Ils vont se rendre compte que c'est pas du pénal, c'est pas d'ordre pénal. Du coup, ils vont réorienter vers nous parce que nous, on fait de l'accompagnement sur toute la procédure civile quand c'est du droit de la famille. Et puis après, on a un accompagnement plus global parce que voilà, on a une psychologue. Donc ça, ils le savent. Donc ils nous réorientent vers nous. Ouais.
Merci Louise.
Merci à vous. C'était un
message
plaisir.
Aux auditeurs.
Merci à tous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis c'était un plaisir. Pour cette première.
Eh bien, on vous réinvitera alors. Hein.
Avec
comme
plaisir.
Vous êtes voisine, hein, donc
c'est ça,
à l'occasion d'une permanence, on ira vous voir.
Si
voilà.
Vous
merci Lou.
Merci
Hervé.
Bien, Fred. Merci
Louise Guittet.
Merci.
Donc je rappelle, juriste pour l'association de Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Oise. Voilà. Les auditeurs, rediffusion de l'émission le dimanche à partir de 16h, le mardi à 10h et après en podcast, le bouche à oreille. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Bonsoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.